Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado Religio. Je m'appelle Loïc Bizol et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Il sera consacré à la réforme du droit de la famille au Québec et l'adoption du projet de loi 12. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous reviendrons donc sur la récente réforme du droit de la famille au Québec, incarnée par l'adoption récente du projet de loi 12. Sous la direction du ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, ce projet de loi a tracé son chemin jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec en mai 2023, marquant une réforme en profondeur du cadre juridique régissant les relations familiales. Après la controverse qui avait entouré le projet de loi 2, et notamment le volet relatif à la réforme du droit des personnes physiques, Simon Jolin-Barrette s'est engagé dans un exercice conservateur visant à défendre une vision traditionnelle de la famille, souvent en opposition aux modèles émergents de familles adoptées par les communautés LGBTQIA+, telles que la gestation pour autrui et la pluriparentée. Dans ce balado, nous explorerons les origines de cette réforme, mettant en lumière les phases traversées, qu'elles soient source de satisfaction ou de désaccord. Nous reviendrons sur les grands jalons historiques du droit de la famille au Québec depuis notamment le début des années 1980, date de la dernière grande réforme du droit de la famille dans la province québécoise. Alors restez à l'écoute pour une exploration approfondie de ces évolutions juridiques importantes et de leur impact sur notre compréhension contemporaine de la famille. Et pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille Andréane Malaquette. Andréane est professeure adjointe à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et chercheure régulière du SODRUS. Bonjour Andréane.
Bonjour Loïc.
Merci de répondre à mes questions aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Alors, pour commencer cette émission, est-ce que ce serait possible pour vous de retracer les grandes étapes qui ont jalonné l'histoire là, de la réforme du droit de la famille au Québec? Si on peut repartir peut-être depuis la dernière grande réforme qu'il y avait eu au début des années 1980, et si vous pouviez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu encore de réforme d'une ampleur similaire depuis ces années-là?
Il n'y a pas eu de réforme similaire depuis ces années-là, tout simplement, je pense, parce que politiquement, ce n'est pas gagnant nécessairement de faire une réforme en matière familiale, particulièrement quand on parle de conjugalité, compte tenu que ce sont des enjeux qui, évidemment, touchent de près les citoyens, les groupes, les intervenants, et chacun peut avoir sa propre façon de voir. Donc, ce ne sont pas des éléments qui, d'emblée, vont faire consensus. Alors, c'est évident pour un gouvernement, c'est pas nécessairement facile de décider de s'engager dans la voie d'une réforme en cette matière-là. Maintenant, de notre côté, effectivement, la réforme ou la dernière grande réforme du droit de la famille remontait à 1980 qui a marqué vraiment un changement complet de paradigme en matière familiale au Québec. C'est l'époque où l'avènement du principe notamment d'égalité, égalité des filiations, égalité entre les conjoints, les époux, nous est parvenue dans le droit. Abolition des notions de famille légitime versus illégitime. La femme qui déjà avait gagné une certaine autonomie, certains droits depuis les années 60, on voit avec la réforme de 1980 que son égalité totale par rapport à son conjoint, son époux se trouve affirmée. Le principe de l'intérêt de l'enfant est également codifié dans le Code civil pour la première fois. Donc, c'est vraiment un moment charnière de notre histoire. C'est aussi le moment où le législateur a décidé d'adopter des mesures impératives en vue de protéger le conjoint vulnérable à l'issue de l'union, plus spécialement à l'issue d'une rupture. Pourquoi à ce moment-là? Ben, tout simplement parce que à partir de 1968, le divorce devient possible à grandeur du Canada, dont au Québec. Et donc, tranquillement, au cours des années 70, le nombre de divorces augmente. Le législateur se rend compte que il y a un trou dans la loi, hein, parce que à l'époque, le mariage étant considéré comme indissoluble, il n'était pas nécessaire de prévoir des dispositions en cas de rupture de la même façon que ce l'est aujourd'hui. Alors, le législateur fait ce pas-là aussi en 1980, adopte des règles qu'on connaît toujours aujourd'hui, plus spécialement les mesures de protection de la résidence familiale, des meubles du ménage, et également le régime de la prestation compensatoire. Cela étant dit, dans les années 80, l'interprétation jurisprudentielle qui est donnée notamment à la prestation compensatoire par la Cour d'appel a pour effet finalement d'amoindrir les efforts du législateur et de faire en sorte que la femme mariée ne sera pas aussi protégée qu'on l'avait prévu. Ce qui amène donc le législateur dans les années 80 à poursuivre sa réflexion en matière familiale et finalement, en 1989, a adopté une loi qui s'ajoute à la réforme de 80, la loi 146, la loi sur le patrimoine familial. Donc, avènement d'un nouveau régime de partage de biens impératifs en 1989 qui s'applique à tous les époux qui sont domiciliés au Québec, peu importe le moment de leur mariage, sous réserve des dispositions à l'époque qui permettaient aux conjoints qui étaient déjà mariés de se retirer de l'application du régime. Donc, ce sont les années 80 qui vraiment ont défini le régime en matière de conjugalité. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas parlé de conjoints de fait, hein. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que les conjoints de fait, si depuis 1980, on admet en droit civil que cette possibilité-là puisse vraiment exister, on n'encadre pas pour autant les rapports patrimoniaux des conjoints de fait, c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Donc, pour le droit de la conjugalité, vraiment, on remonte carrément aux années 80 quand on regarde les réformes et ce qui constitue notre droit aujourd'hui. Pour le volet droit de la filiation, parenté, là, il y a eu des réformes au fil du temps de moindre importance, mais quand même, qui ont marqué le droit. Je pense notamment à l'avènement de la filiation homoparentale, l'encadrement en fait de cette possibilité-là, puisque ça existait déjà en 2002, l'avènement de l'union civile à l'époque pour permettre aux conjoints de même sexe de s'unir légalement parce que le mariage étant de compétence fédérale, c'est pas possible pour Québec de faire quoi que ce soit à l'époque. Certaines modifications plus récentes aussi en matière d'adoption, communication des renseignements identificatoires d'origine, etc. Mais la véritable réforme de fond est celle là, qui vient d'avoir lieu l'été dernier avec la loi 12, donc la réforme complète du droit de la filiation avec notamment l'encadrement nouveau de la gestation pour autrui en droit québécois.
Alors, merci beaucoup là, pour ces éléments de contexte. Ça nous donne déjà davantage de clés pour comprendre un peu mieux comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ce fameux projet de loi 12, donc projet de loi même loi 12 finalement, parce qu'il a été adopté. Si on continue là ce tour d'horizon, dans le fond, vous l'avez dit, le domaine de la conjugalité finalement, c'est encore en fait un domaine assez sensible là, notamment là avec la dernière loi qui a été votée au printemps dernier. Vous l'avez dit, les conjoints de fait, c'est quelque chose encore que la dernière loi qui a été votée n'a pas encore abordé, on va pouvoir y revenir. Si on revient peut-être sur un épisode assez marquant, la réforme du droit de la famille au Québec, notamment si on prend la fameuse saga qui avait été très médiatisée à l'époque entre deux individus, donc Eric et Lola, suite finalement au jugement de 2013 qui avait été rendu sur cette affaire-là. À quel point est-ce que cet événement a marqué la réforme du droit de la famille au Québec, puis en quoi est-ce que son impact a pu être senti là sur la dernière réforme adoptée au printemps dernier?
Excellente question, Loïc. En fait, l'impact de cet arrêt de la Cour suprême est fondamental. C'est le point de départ de la réflexion qui a mené le législateur québécois à entamer la réforme du droit de la famille. En 2013, on vous l'avait dit, la Cour suprême du Canada se prononce sur la constitutionnalité du régime québécois en matière de conjugalité, valide la constitutionnalité de ce régime-là. On le contestait, Lola, en fait, le contestait parce que ce régime n'encadre pas les conjoints de fait. Étant conjointe de fait, elle se trouvait, s'estimait lésée et donc a formé finalement une requête devant un tribunal de première instance pour faire invalider la loi québécoise qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême du Canada. Ce qui est singulier dans ce jugement-là de la Cour suprême, c'est que les neuf juges ont beau au total valider la loi. Ça se fait de façon très divisée, hein, à 5 juges contre 4. Et même si on va dans le détail davantage du jugement, on se rend compte qu'il y a 5 juges sur 9 qui, quand même, ont considéré le régime québécois comme étant discriminatoire, comme contrevenant notamment au droit à l'égalité. Et pourquoi on se retrouve finalement à le valider? C'est parce que le 5e juge à l'époque, qui était la juge en chef McLaughlin, décide par un mécanisme de droit constitutionnel, l'article 1 de la Charte, de valider tout de même le régime québécois en estimant que les dispositions se justifient selon, dans le cadre d'une société libre et démocratique, selon le test de Hawkes, là, qui est un test que tout le monde connaît en matière de droit constitutionnel. Donc, on se retrouve dans une situation où, in extremis, le régime québécois n'est pas invalidé, il survit. Donc, en clair, la Cour suprême envoie un message à Québec et lui dit, bon, ben si t'as pas déjà compris, il faudrait que tu comprennes maintenant que ce serait peut-être le temps de réfléchir, à tout le moins, hein, à l'opportunité de modifier un certain nombre de choses. Donc, le message à l'époque a été entendu par Québec. Le gouvernement de l'époque, le gouvernement de Pauline Marois, a formé un comité consultatif sur le droit de la famille. C'est Bertrand Saint-Arnoult, qui était à l'époque ministre de la Justice, là, qui juge aujourd'hui, qui avait les rênes de cette initiative-là. Donc, comité consultatif sur le droit de la famille formé en 2013, d'une dizaine de personnes expertes, là, tant juristes de la pratique du milieu universitaire, avocats, notaires, mais aussi spécialistes de sciences sociales. Présidé par le professeur Alain Roy de l'Université de Montréal, qui est un spécialiste de droit de la famille. Ce comité-là a travaillé et a réfléchi pendant 2 ans à l'opportunité d'une réforme et a émis un rapport, a délivré un rapport 2 ans plus tard, en juin 2015, avec 82 recommandations sur la réforme du droit de la famille, tant dans son volet conjugalité que dans son volet filiation, parenté, parentalité. Donc, on aurait pu s'attendre rapidement, après 2015, à un début de travaux législatifs sur la question. À l'époque, le gouvernement Couillard n'en a pas fait sa priorité, de telle sorte que le rapport a été un petit peu mis de côté jusqu'à l'arrivée au pouvoir du gouvernement québécois actuel, qui a repris ce dossier-là, qui a fait des consultations publiques en 2019 sur le sujet, qui a annoncé son intention de réformer le droit de la famille, de procéder en 2 volets. Le premier étant le volet portant sur la filiation, la parenté, et le second étant le volet sur la conjugalité. Donc, chose faite, chose promise, chose faite, chose due. Et donc, cette réforme-là a finalement été adoptée. Vous le disiez, en juin dernier, avec la loi 12, il y a une partie de réforme également là, qui a été adoptée l'année auparavant avec la loi 2. On pourra peut-être y revenir. Donc, le premier volet de la réforme, finalement, a pu être bouclé. Maintenant, reste le second sur lequel le gouvernement est à travailler. On peut s'attendre d'ailleurs au dépôt d'un projet de loi dans les prochains mois.
Alors, on va revenir sur ce second volet, justement, dans la suite là, de notre discussion. Mais puisque vous en parlez, ça va me faire une belle transition. Donc, dans le fond, cette fameuse loi 12 qui a été votée là, au printemps dernier, quelles sont les principales modifications que cette loi introduit? Puis vous en avez parlé là, de ce projet de loi 2, donc loi 2 qui avait été présentée lors du précédent mandat caquiste. Est-ce que je crois qu'il n'avait pas été entièrement adopté avant la dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pourriez donc décrire là, les étapes clés de cet itinéraire qui ont mené jusqu'à cette loi 12 adoptée en juin dernier?
Oui, absolument. En octobre 2021, le ministre de la Justice présente un projet de loi, le projet de loi numéro 2, qui a pour objectif premier, de réformer le volet filiation du droit de la famille. Ceci étant dit, ce projet de loi-là, compte tenu des circonstances entourant sa présentation, contient également des dispositions vouées à modifier le Code civil au regard du droit des personnes physiques, en lien notamment avec les droits des personnes trans et non-binaires. Pourquoi est-ce qu'il y a un volet spécifique là-dessus qui est un peu en marge du droit de la famille, même si ça a un impact sur le droit de la famille? Bien, parce que à l'époque, la Cour supérieure vient de rendre un jugement en matière de droit des personnes physiques en lien avec les droits des personnes trans de même sexe et invalide un certain nombre de dispositions dans le Code civil et demande aux législateurs québécois de retourner à sa table à dessein. Donc, on a ce volet-là qui finalement est présent dans la loi 2. Puis on a tout le volet aussi auquel on s'attendait relatif à la réforme du droit de la filiation. Maintenant, les choses étant ce qu'elles sont en politique, le temps passe, on commence à discuter à l'hiver 2022 du projet de loi en commission parlementaire et on se rend compte assez rapidement avec le déclenchement des élections dont on sait là, qu'elles s'en viennent à l'automne 2022 que ce sera visiblement pas possible d'adopter dans son entièreté le projet de loi 2. Ce qui amène donc finalement, là, après un jeu là, d'aller-venu entre, bon, ce qu'a à dire le gouvernement au pouvoir et les partis d'opposition, ce qui mène finalement à une espèce de deal au mois de juin où le ministre de la Justice, Jolin Barrette, dit « OK, bon, c'est bon, on va tout simplement retirer du projet de loi 2 la vaste majorité des dispositions qui concernent la réforme du droit de la filiation, puis on va se concentrer sur l'adoption des réformes de la réforme en matière de droit des personnes physiques sur lesquelles on a eu le temps de se pencher en commission et on a eu le temps de débattre amplement et à l'égard desquels là, tout le monde est à l'aise. On n'a pas voulu finalement brusquer quoi que ce soit compte tenu de l'importance des dispositions en matière de filiation. Donc, c'est ce qui est fait finalement au mois de juin 2022. La loi 2 est adoptée, mais amputée de la vaste majorité de ces dispositions qui concernent le droit de la filiation. Quelques petites dispositions survivent, mais c'est marginal. Le droit des personnes physiques est par ailleurs modifié en substance. Donc, le gouvernement caquiste à l'époque fait part de son intention de représenter les dispositions qu'il vient de retirer de son projet de loi dans un nouveau projet de loi advenant sa réélection à l'automne 2022. Donc, effectivement, on le sait maintenant, automne 2022, le gouvernement caquiste est réélu. Donc, effectivement, tel qu'on l'avait annoncé, un nouveau projet de loi qui reprend les dispositions du projet de loi 2 avec bien sûr certains ajouts, certaines modifications, mais le cœur est quand même le même. Donc, un nouveau projet de loi, le projet de loi 12, est déposé en février 2023, sans surprise là, pour personne, on s'attendait à ça, et finalement est débattu en Assemblée nationale au printemps et finalement est adopté en juin dernier. Donc, c'est la trajectoire qu'a suivie, si on veut, la réforme là, dans les temps récents, en lien avec la loi 2, la loi 12. Maintenant, qu'est-ce qui est réformé en profondeur? Il y a un certain nombre de dispositions en matière d'actions judiciaires relatives à la filiation qui sont modifiées, notamment l'abrogation de l'action à désaveu de paternité qui commandait une prise d'action très rapide devant le tribunal. Les actions relatives à la filiation sont d'ailleurs maintenant rendues imprescriptibles, donc ne sont plus assujetties à un délai pour être amenées devant un tribunal. Le régime est précisé en lien notamment avec des questions qu'on a vues surgir en jurisprudence. Par exemple, qu'advient-il quand deux hommes, par exemple, peuvent revendiquer à l'égard d'un même enfant deux possessions d'État simultanément, lequel on va privilégier. Donc, il y a des nouvelles dispositions là-dessus. Toute la question du verrou de la filiation également est reportée, mais précisée davantage et on impose maintenant un délai de 24 mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles, pour conclure à l'existence d'une possession d'État constante, alors qu'auparavant, la jurisprudence là, nous amenait entre 16, même un petit peu moins, entre 16 mois et 24 mois. Et on a également tout ce qui concerne la GPA, la gestation pour autrui, là, que le législateur renomme grossesse pour autrui, donc l'acronyme reste le même, qui n'était pas encadré dans le droit québécois, qui l'est désormais là, par à peu près 37 dispositions. Et il y a tout un régime également de communication des renseignements qui accompagne ça, de telle sorte que maintenant la communication des renseignements aux enfants va se faire nécessaire non seulement pour les enfants adoptés, mais aussi pour les enfants issus d'une procréation assistée. Un droit d'ailleurs à la connaissance des origines qui est enchâssé dans la Charte québécoise n'est pas encore en vigueur, ou va entrer en vigueur au plus tard en juin 2025, quand même un grand pas en avant à ce niveau-là également. Plusieurs éléments, il y a également la présomption de paternité qui, bon là je sais plus si c'est la loi 12 là, qui est élargie dans son application aux conjoints de fait, ce qui est tout à fait nouveau dans le droit. Donc, il y a quand même plusieurs éléments. Les articles, là, sont pour la plupart remaniés de fond en comble pour être nuancés, précisés à la lumière de la jurisprudence ou carrément pour être créés quand on parle notamment de la GPA.
Donc, justement, là, vous nous avez parlé là, de toutes ces avancées, puis des grands pas en avant que la loi 12 a pu modifier, puis a pu générer là, comme progrès, malgré tout, malgré ces pas en avant. La loi 12 a suscité, malgré tout, plusieurs préoccupations, notamment en ce qui a trait à la conception traditionnelle de la famille que la CAQ maintient avec cette loi 12. La loi avait été critiquée au printemps dernier, avant même son adoption finalement, notamment par certaines associations communautaires LGBTQ+, notamment la coalition des familles LGBTQ+, qui demandait depuis longtemps que la réalité des questions liées à la pluriparentalité soit reconnue dans le droit québécois. Et puis le projet de loi, enfin la loi 12 maintenant, proposée par le gouvernement caquiste, semble persister en déclarant qu'une famille est vraiment composée de deux parents, pas plus. Dans ce contexte, comment est-ce que le gouvernement caquiste justifie sa position là, sur la conception de la famille dans la loi 12, malgré ses demandes répétées de modifications code civil là, de la part notamment de la coalition des familles LGBTQ+. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer un peu sur ce qui se fait ailleurs au Canada? Est-ce qu'il y a d'autres provinces qui reconnaissent les familles pluriparentales?
Oui, tout à fait. Je peux certainement vous éclairer. D'abord, il faut distinguer deux choses ici. Hein. La pluriparenté de la pluriparentalité sont deux choses différentes. La pluriparenté s'attache vraiment au lien de filiation légale. Combien de parents légaux a un enfant? Alors que la pluriparentalité s'attache davantage à la réalité de l'enfant. L'enfant qui a un ou deux parents légaux, mais qui néanmoins, dans sa réalité, peut avoir davantage de figures parentales qui gravitent autour de lui. Ceci étant dit, donc, le législateur québécois, effectivement, au niveau de la pluriparenté, fait son lit et réitère, en fait, ce qui est l'état du droit au Québec et dans la vaste majorité des États depuis toujours, à savoir que une famille est composée, en fait, un enfant, pas une famille, mais un enfant peut avoir au plus deux parents reconnus légalement avec un lien de filiation. C'est un choix politique ici qui est fait, je crois, de façon délibérée. Hein. Enfin, c'est ce qu'on a pu voir dans les médias. C'est un choix qui, je pense, peut se défendre. C'est le choix, d'ailleurs, comme je disais, que beaucoup de législatures ont fait. Est-ce que le législateur québécois aurait pu choisir autrement? Tout à fait. C'est pas la majorité, mais il y a des régimes où, effectivement, la pluriparenté, donc un lien de parenté avec plus de deux parents est reconnu. On n'a pas besoin d'aller très loin là pour avoir connaissance de ça dans notre cas, puisque dans certaines provinces canadiennes, c'est le cas. Je pense plus spécialement à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan et à l'Ontario, qui ont modifié leur loi dans les 10-15 dernières années là, en ce sens-là, avec bon, l'évolution jurisprudentielle dans certains cas. Et il y a également Terre-Neuve, le plus récemment, qui s'est joint à ce groupe-là. Mais la loi, en fait, à ma connaissance, là, à Terre-Neuve, n'a pas encore été modifiée. Donc, c'est vraiment dans un jugement qu'un tribunal, par ailleurs, qui n'est pas un tribunal d'appel, là, un tribunal de première instance qui permet l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et trois personnes dans un contexte polyamoureux. Donc, c'est quelque chose qui se peut, mais dans le monde civiliste, c'est, à ma connaissance, une configuration qui ne trouve pas d'écho. Maintenant, quant à la pluriparentalité, Donc, la reconnaissance, finalement, de certains droits aux personnes, aux figures parentales qui gravitent autour de l'enfant. Effectivement, la réforme a amélioré un certain nombre de choses, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu le souhaiter. Les réalités d'aujourd'hui font que les recompositions familiales sont fréquentes. On voit ça, j'ai pas de chiffres, là, mais probablement dans une famille sur deux. Donc, comment reconnaître, notamment aux beaux-parents, certains droits dans la vie de tous les jours à l'égard de l'enfant, ne serait-ce que pour faciliter la vie de tout le monde. Ça, le législateur n'a pas nécessairement avancé beaucoup à cet égard-là. Il y a eu une modification à l'article 611 du Code civil du Québec pour reconnaître certains droits, et c'est tout à fait nouveau, à l'ex-beau-parent. Mais quant au beau-parent lui-même, oui, il y a des dispositions dans le code qui vont permettre notamment les dispositions sur la tutelle supplétive, un partage de l'autorité parentale avec un beau-parent, mais c'est toujours dans un contexte où il y a un des parents qui est manquant, hein, qui ne fait pas sa job. Et pas dans un contexte où on est vraiment trois, quatre ensemble à gérer la vie d'un enfant. Qu'est-ce que le législateur pourrait encadrer ces réalités-là? Je pense que oui. Comment le faire? Bon, on pourrait réfléchir à cette question-là. Maintenant, je me suis posé la question suivante, à savoir, est-ce que le législateur ne voulait-il pas, peut-être, on le verra, là, d'abord aller réglementer ou régir de nouvelles façons tout l'aspect du droit de la conjugalité pour ensuite revenir en arrière et dire, bon, mais maintenant qu'on a redéfini les droits des conjoints en droit québécois, est-ce qu'on ajoute un volet à cet égard-là, notamment en écho aux réalités d'aujourd'hui pour les beaux-parents, pour les repositions familiales, etc. Donc, je ne sais pas ce qu'il adviendra, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, ça pourrait être profitable parce qu'actuellement, l'état du droit est un peu chaotique en cette matière-là au Québec. Il y a la loi sur le divorce qui prévoit la notion de tenir lieu de parents, donc agir in loco parentis, et qui va donner dans ce contexte-là certains droits aux beaux-parents qui est marié aux parents. Mais ça, c'est dans la loi fédérale. Il n'y a pas d'écho dans la loi provinciale au Québec, donc dans le Code civil. Il y a certains jugements qui ont commencé à laisser entendre, notamment deux arrêts de la Cour d'appel, qu'on pourrait peut-être étendre cette notion-là en droit civil québécois, même au contexte où le beau-parent est en union de fait avec le parent de l'enfant. Mais c'est absolument pas clair et on aurait tout avantage, je pense, à réfléchir à ces questions-là qui se posent fréquemment, j'oserais dire encore plus que les revendications en lien avec la pluripartition parenté en elle-même, donc triple ou quadruple lien de filiation auprès d'un enfant.
Alors, dans une même idée, là, pour continuer de réfléchir à comment adapter le droit aux nouvelles réalités conjugales et familiales, si on revient là, sur ce fameux deuxième volet que vous avez évoqué tantôt, celui notamment sur la question des conjoints de fait. Donc, ce second volet là, de la loi 12 se fait attendre. On a parlé tantôt là, de l'affaire Éric et Lola, et puis on a bien compris à quel point ça a été un point de bascule important pour la réforme du droit de la famille au Québec. En quoi est-ce que ce projet de loi là, sur la conjugalité va-t-il permettre de combler les lacunes qui existent sur cette question aujourd'hui là, dans le droit québécois? Puis, quelle est, selon vous, une réforme qui pourrait permettre d'offrir une meilleure protection aux couples non mariés? C'est sûr que, bon, je ne sais pas à quel point vous savez ce que le gouvernement prévoit en la matière, mais vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous espéreriez de cette réforme, dans le fond?
Moi, il y a deux éléments particuliers que j'attends. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, mais je pense qu'on peut s'attendre, de façon générale, à ce que le législateur propose un nouvel encadrement pour les conjoints qui ne sont pas mariés, donc les conjoints de fait, afin de les assujettir à des mesures similaires en tout ou en partie aux conjoints mariés lorsqu'il y a un enfant commun aux deux conjoints de fait. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, là, qu'allaient les recommandations du comité consultatif sur le droit de la famille en 2015. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre. Est-ce que le législateur québécois va décider d'encadrer mur à mur l'union de fait, sans égard à ce que les conjoints de fait aient ou pas d'enfants? Je serais surprise. C'est pas impossible, c'est une configuration qui existe d'ailleurs ailleurs au Canada, en fait, dans toutes les autres provinces, l'union de fait est encadrée à divers degrés, alors qu'elle n'est pas du tout au Québec en matière de conséquences pécuniaires, si on veut, de l'union de fait. Donc, ce serait pas impossible, mais je pense pas que c'est ce qu'on va voir. Je pense que ce serait politiquement probablement suicidaire pour le gouvernement de proposer un encadrement mur à mur. Donc, j'ai l'impression qu'on va y aller avec une solution alternative qui se base sur la logique suivante, à savoir des conjoints qui n'ont pas d'enfants, bon, peuvent bien prendre soin d'eux-mêmes et généralement vont être de nos jours, en fait, dans la plupart des configurations, peut-être davantage indépendants économiquement que dans un contexte où il y a venu d'un enfant et où on sait que, veut, veut pas, que ce soit du côté de l'homme, de la femme, ou bon, maintenant on sait que les configurations également peuvent être autres, peu importe là, les configurations, dis-je, il y aura généralement un conjoint qui va être davantage désavantagé par la venue d'un enfant. Traditionnellement, ça a été la femme, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est souvent elle qui va prendre un congé de maternité, un congé parental plus long, bien que maintenant on voit de plus en plus d'autres modèles émerger. Mais c'est dans cette logique-là, je pense qu'on va probablement proposer un encadrement pour les conjoints de fait qui ont des enfants et de manière à les assujettir à probablement un régime de partage de biens là, qui va ressembler au patrimoine familial actuel avec, j'oserais le croire, puisque c'est aussi la recommandation du comité consultatif sur le droit de la famille, avec un droit d'opting out, c'est-à-dire on applique des mesures, mais les conjoints de fait avec enfants peuvent décider d'opter out ces mesures-là, donc de s'exclure de l'application de ces mesures-là par probablement un mécanisme du type signature d'un contrat par voie notariée. On peut s'attendre à ça. Maintenant, moi, les deux éléments qui me tiennent particulièrement à cœur dans le cadre de cette réforme-là, et est-ce qu'on va aller jusque-là? Franchement, c'est vraiment pas chose faite. Mais en ce qui me concerne, j'ai un problème et la position est pas celle de beaucoup d'avocats praticiens en droit de la famille. En ce qui me concerne, j'ai un problème avec l'imposition mur à mur de régime impératif quant aux effets du mariage aux conjoints mariés, sans possibilité pour eux de s'exclure en tout ou en partie, à tout le moins, de ce régime-là. C'est pas possible pour les conjoints mariés aujourd'hui de s'exclure de l'application des mesures relatives notamment au patrimoine familial, mais aussi les autres mesures qui ont trait au régime primaire, c'est-à-dire la prestation compensatoire, les mesures de protection de la résidence familiale, des meubles du ménage, les droits et devoirs des époux également, mais bon, ça, c'est probablement moins problématique. Donc, particulièrement au niveau du patrimoine familial, et on l'a vu dans la jurisprudence dans les dernières années, l'argument qui a été amené, c'est qu'on peut vouloir se marier pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles, pour des raisons sociales, sans nécessairement vouloir qu'on nous applique de façon impérative ou obligatoire un régime de partage de biens qu'on n'a pas choisi. On pourrait vouloir choisir de moduler ce régime-là ou de s'en exclure en tout ou en partie. Actuellement, c'est pas possible de le faire. La seule chose qui est possible, c'est au moment de la rupture, au moment de la dissolution, de décider, un coup qu'on sait ce à quoi on a droit en matière de partage de biens, à y renoncer. Puis généralement, dans les cas litigieux, les gens sont devant le tribunal. C'est une époque où ils se détestent, donc ils ne vont absolument pas renoncer à quelques droits que ce soit. Donc, moi, j'ai un problème avec ça et je comprends pas pourquoi on infantilise encore aujourd'hui à ce point les conjoints mariés qui pourraient souhaiter autre chose. Je comprends l'idée quand le régime a été adopté en 1989. On était ailleurs. On était à une époque où les femmes mariée, était encore à la maison, s'occupait des enfants, n'était pas indépendante économiquement, avait souvent sacrifié leur carrière consciemment parce que c'était comme ça que ça se faisait, c'était comme ça que les gens évoluaient pour être avec les enfants à la maison, alors que l'homme, lui, était souvent celui qui était sur le marché du travail, pourvoyeur, avec un patrimoine. Donc, je peux comprendre qu'à l'époque, on ait voulu étendre ça sans vouloir permettre aux gens d'opter out, outre les mesures transitoires de l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on est ailleurs, je pense, et le modèle majoritaire n'est plus celui de la femme qui reste à la maison pendant que monsieur va travailler. Le modèle majoritaire, d'abord, c'est plus nécessairement un homme et une femme, on le sait, et par ailleurs, bien souvent, les deux conjoints travaillent. Donc, on est complètement ailleurs. Et dans cette optique-là, pour moi, il faudrait se questionner et à tout le moins ouvrir cette possibilité d'opt-out qui, de toute façon, requiert le consentement des deux parties. Donc, dès lors qu'une partie ne veut pas s'exclure des mesures, on oublie ça. Donc, pour moi, c'est un élément qui devrait faire partie de la réforme, mais je vous dis, j'ai peu d'espoir. Autre élément que j'espérerais voir régi dans cette réforme, et ce n'est pas le cœur de la réforme du droit de la famille, même si ça s'y intéresse, c'est la question de la vocation successorale du conjoint survivant. Donc, est-ce que le conjoint survivant hérite ou pas quand il n'y a pas de testament? C'est la question, donc, dans le jargon juridique qu'on appelle la vocation successorale ab intesta, donc sans testament. Dans l'état du droit québécois actuel, seul le conjoint marié hérite ab intesta. Donc, s'il n'y a pas de testament, et qu'on est conjoint de fait, on n'hérite pas. Sous aucune considération, on est mis de côté au profit de la famille du défunt jusqu'au huitième degré, puis s'il n'y en a pas, au profit de l'État. Ce qui me semble assez choquant au regard de ce qu'on appelle les affections présumées, c'est-à-dire ce qui fonde le régime de dévolution légale, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un défunt type aurait raisonnablement pu vouloir faire s'il avait testé, s'il avait fait un testament. Ben, raisonnablement, on peut s'attendre, dans la vaste majorité des cas, à ce qu'il eût choisi d'avantager son conjoint. Pour l'instant, c'est pas comme ça qu'on conçoit les choses, puisque seul le conjoint marié hérite. Pour moi, le conjoint de fait devrait également être un héritier légal. Rien n'empêche d'exclure tout ça par testament, comme c'est d'ailleurs déjà le cas de toute façon pour le conjoint marié. Mais pour moi, il n'y a pas de raison à ce qu'un conjoint de fait, particulièrement quand on réfléchit au regard des conjoints de fait dans une première union, là, qui ont des enfants, qui construisent une vie avec quelqu'un, qui sont avec lui pendant X années et qui, parce qu'il n'y a pas de testament, à l'issue d'une vie commune, se retrouvent avec rien du tout parce que le régime de dévolution légale ne prévoit pas qu'il peut hériter. Alors, pour moi, ça, c'est un non-sens et c'est une mesure qui devrait être repensée. J'en ai fait d'ailleurs ma thèse de doctorat, donc c'est pas surprenant que je vous en parle aujourd'hui. Enfin, comme je vous dis, c'est pas là le cœur du questionnement du législateur. Est-ce qu'il va aller jusque-là? J'en serais ravie. Est-ce qu'il va le faire maintenant? Peut-être pas. Est-ce qu'il va le faire un jour? Ben, j'ose espérer.
Bon, ce sont vraiment de grandes questions que vous soulevez là, Andréane, puis j'imagine que vous serez évidemment très attentive à ce second volet qui se fait attendre là, j'imagine, dans les prochains mois, sur cette réforme du droit de la famille et de la conjugalité. Donc je vous remercie énormément d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, puis peut-être que je vous réinviterai pour vous entendre là sur cette... sur ce second volet de la loi 12 qui devrait avoir lieu là, dans les prochains mois. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous, Loïc. Grand plaisir.
C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du Balado Religio, un balado du Sodrus. Je remercie encore une fois Andréane Malaquette d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Petite précision avant que l'on ne se quitte, depuis l'enregistrement de cette émission, un projet de loi, le projet de loi 56, a été déposé par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, qui encadre les unions de fait lors d'une séparation. Le Québec est un des endroits dans le monde où on compte le plus de conjoints de fait, mais ces unions donc, n'étaient pas reconnues, comme Andréane Malaquette nous l'expliquait dans le Code civil, lors d'une rupture. Projet de loi qui n'a pas encore été adopté à l'heure où ce montage a été fait de l'émission. En tout cas, je vous invite à rester attentif donc à l'évolution autour de ce projet de loi 56, des débats parlementaires. Et c'est donc ainsi que s'achève ce nouvel épisode du Balado Religio, un balado du Sodrus.